Attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le Canu Info. Ah,
je savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut dépasser ton permis, contre la polémie et ton fichier. C'est tout ton vénère et c'est mal poli. Ça saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mon tâche dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi?
C'est Camille Info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est Dodoué.Dodoué, la radio plus ribelle.
Paniquez, paniquez tout. Attends, paniquez pas.
Niquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi. Et paniquez pas, niquez tout, il est vendredi soir, quelle heure il est?
Il est 19h52.
C'est superbe. Et bah du coup, c'est l'heure du Canu Info du vendredi. De quoi qu'on va vous parler ce soir?
C'est absolument l'heure du Canu Info du vendredi du 26 janvier 2024. Et ce soir, on va commencer par vous parler des mobilisations d'agriculteurs qui ont lieu un peu partout dans le pays.
Et puis, comme Gérard Larcher se sent obligé d'ouvrir sa bouche, on vous parlera aussi de réarmement démographique et de l'ensemble du gouvernement qui dit de la merde.
Absolument, et en plus, le réarmement démographique, c'est aussi une expression de Macron. Et puis ensuite, on continuera avec des réactionnaires, parce qu'il n'y en a pas que au gouvernement et au Sénat, il y en a aussi dans les syndicats de profs, et on vous parlera de force ouvrière. Force ouvrière qui a décidé de se battre contre l'inclusion à l'école des élèves handicapés.
Et si jamais vous croyez que c'était les plus mauvaises nouvelles de la santé, alors on va peut-être pas faire d'hierarchie, mais en tout cas il y en a d'autres, et il y a aussi le doublement des franchises médicales.
Absolument, et ensuite on passera à l'international où, comme personne n'a le monopole de l'extrême droite actuellement, il y en a aussi très très forte et au pouvoir en Argentine, et on vous parlera de Javier Milei et des manifestations contre Javier Milei.
Et puis, comme chaque semaine, on conclura sur l'agenda. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire la semaine prochaine? Et évidemment, le ACAB. On attend avec impatience vos appels au... J'arrive pas à le lire.
04 78 39 18 15. Je savais que tu étais en train de noter le numéro de Radio Canu. Tu peux nous appeler si tu sais ce que veut dire ACAB. En attendant, nous, on passe immédiatement à la rubrique nationale.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et oui, il y a des gens qui balancent des pavés et d'autres choses, du foin, du fumier, des pneus, etc. Il y en a pas mal dans le pays actuellement. Ce sont notamment les agriculteurs. Et pour introduire ce sujet sur les mobilisations d'agriculteurs, le mieux, c'est peut-être quand même d'écouter un type qu'on diffuse assez rarement au Canu Info du vendredi et qui s'appelle Gérald Darmanin.
Deuxièmement, est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire.
Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre à un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal.
Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas.
Enfin, il y a eu... Vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture?
Écoutez, moi, je suis
Ils
élu...
n'ont pas défoncé la grille
écoutez,
d'entrée
écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent.
Vous voyez le sens de ma question, c'est
fort.
Le deux poids, deux mesures.
Non, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, qu'ils sont, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS.
Voilà, on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS et autres balivernes. Ce discours est quand même assez hallucinant. Alors on va essayer de dire deux mots de ce discours quand même, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de dire qu'il faudrait réprimer tout le monde davantage et qu'il faudrait les taper extrêmement fort sur les agriculteurs. C'est aussi certains profils d'agriculteurs qui se mobilisent beaucoup actuellement. C'est aussi certains syndicats particuliers d'agriculteurs. On va pouvoir en dire un mot. Mais quand même, on hallucine un petit peu sur un truc qui est quand même assez inquiétant. C'est que quand, en fait, ce qui est censé être l'état de droit est appliqué de manière différente en fonction de qui fait telle ou telle action, ça devient le fait du prince, et ça, c'est pas particulièrement un symbole démocratique, c'est même plutôt inquiétant sur l'état du pays, quand on sait d'où vient Gérald Darmanin politiquement, c'est-à-dire de l'extrême droite. On n'est pas très très étonné, mais c'est quand même des discours relativement hallucinants où, en fait, voilà. Il y a aussi un truc à noter quand même, c'est que ce qu'on vient d'écouter, c'est un extrait du JT de TF1 d'hier soir, et même le journaliste de TF1, c'est-à-dire pas l'espace où on s'attend à trouver des camarades, il n'y en a pas, est quand même un petit peu en train d'halluciner sur ce que le ministre de l'Intérieur dit. Et donc, il y a quand même des choses hallucinantes. Donc, on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Je sais pas, peut-être que les personnes racisées, les soignants et soignantes, les étudiants et étudiantes, les féministes, les pompiers, les profs, les retraités, les jeunes des quartiers, les chômeurs, chômeuses, les gilets jaunes, les écolos apprécieront cette déclaration. On se rappelle qu'il y a pas si longtemps, on envoyait des gens en garde à vue pour pas grand-chose. On vous parlera peut-être à nouveau de répression dès ce soir. On vous en parlera en tout cas très bientôt. Mais en attendant, c'est quand même des choses assez folles. Alors là, on entend aussi dire, bon, bah, en fait, il n'y a pas eu d'attaque ou de policiers et de gendarmes, hein, comme si c'était ça le seul sujet important. Mais par contre, il y a eu un truc assez symptomatique quand même, c'est qu'il y a eu aujourd'hui une forme de... c'est pas une attaque, mais... De protestation devant un endroit assez symbolique qui n'est pas une préfecture, qui n'est pas une mairie, qui est une inspection du travail. C'est l'inspection du travail d'Agen où des agriculteurs et agricultrices sont allés suspendre et éventrer un sanglier. C'était pas mal. Et tout ça pour se plaindre à nouveau des normes trop contraignantes, de revenus trop faibles, d'un manque de considération, d'incertitude sur l'avenir. En fait, tout un tas de souffrances qui sont en partie réelles, tout un tas de focalisations aussi qui posent question, notamment sur les normes écologiques, comme si c'était réellement le problème, plutôt que des revenus absolument insuffisants qui ont été orientés par des décennies de politique industrielle, et des choses qui posent question. Alors on va vous parler un petit peu, c'est difficile de traiter complètement ce truc, on va en parler un petit peu, en parlant notamment du principal syndicat qui a la manœuvre, qui s'appelle la FNSEA, vous en avez sans doute déjà entendu parler, via son patron. On rappelle quand même que la FNSEA est un syndicat largement issu de la collaboration avec le régime de Vichy, et c'est un syndicat qui fait la promotion de l'agriculture intensive et une forme de lobbying à peu près contre tout ce qui est normes écologistes et respect du travail. Et puis il y a un autre syndicat qu'on a pu voir notamment dans les actions ce matin sur cette histoire d'inspection du travail. L'inspection du travail, c'est quand même un des rares services publics qui protège les travailleurs, hein, quand même, on le rappelle. Donc quand on l'attaque, ça raconte quand même quelque chose. Les syndicats d'agriculteurs, aussi sympathiques soient-ils, comme la Confédération Paysanne, on le rappelle, sont des syndicats patronaux quand même, hein, ce ne sont pas des syndicats de travailleurs agricoles en général. Et on a aussi la coordination rurale. Alors, c'est un syndicat qui dit « nous sommes 100% agriculteurs ». C'est surtout un syndicat 100% FAF, avec des positions parfois un petit peu étonnantes. Notamment, elle a milité en faveur d'une politique migratoire plus souple. Alors pour des gens qui sont très proches du Front National, avec des rapprochements avérés, c'est un peu particulier. Et notamment autour de la préfecture d'Agen en 2001, donc il y a 20 ans, pour réclamer la revenue d'ouvriers agricoles polonais et marocains, avec des militants départementaux de la coordination La coordination rurale qui refusait d'embaucher des travailleurs français qualifiés de bras cassés, c'est quand même les termes qu'ils utilisaient, et leur leader de l'époque, Serge Bousquet-Cassagne, demandait des gens qui ont faim et qui ont envie de travailler. Et donc là, on comprend bien pourquoi on va faire chier l'inspection du travail et pourquoi, eh bien, on ne s'est pas forcément beaucoup mobilisé sur des questions de migration de manière un peu cool, parce que si c'est juste pour exploiter des personnes, c'est pas mal. En 2004, la Confédération rurale, coordination rurale pardon, du Lot-et-Garonne, avait aussi apporté son soutien à un agriculteur qui avait tué deux inspecteurs du travail qui enquêtaient sur les conditions de travail des saisonniers dans son exploitation, des saisonniers migrants dans son exploitation. Le syndicat avait alors placardé un peu partout des affiches sur les bords des routes qui disaient non à l'inquisition. Donc on voit qu'il y a un petit peu des gens sympathiques. Alors, on peut aussi parler à nouveau de la FNSEA. Je disais, on va en parler un peu à travers son patron parce que ça aide aussi à comprendre, en fait, à un moment, quelles positions sont tenues. Puis après, on dira peut-être deux, trois autres choses. Mais en tout cas, essayer d'analyser la mobilisation, peut-être, en termes de classe. Donc, la FNSEA, c'est comme une organisation dont vous a déjà parlé ici pas mal l'année dernière parce que ça a notamment beaucoup été l'organisation qui a influencé et qui a été à la manœuvre auprès du gouvernement pour exiger la dissolution des soulèvements de la terre. C'est aussi en lien avec ça que ça fait un petit peu curieux aujourd'hui les propos de Gérald Darmanin et d'autres politiciens. Et donc Arnaud Rousseau, qui est donc le président de la FNSEA depuis l'année dernière, c'est un patron en fait, c'est pas du tout un agriculteur à la base. L'écologie et l'Europe lui servent en fait aujourd'hui d'épouvantail pour masquer le monde qu'il sépare des fameux éleveurs du Gers qu'il prétend représenter avec son syndicat. Arnaud Rousseau a un grand nombre de casquettes, ou plutôt de chemises. Hein. Il a une chemise à carreaux, celle qu'il a toujours un petit peu, c'est une mise en scène de lui-même, quand il va à la télé pour parler comme agriculteur et dirigeant de la FNSEA. Et puis il a aussi sa petite chemise bleu pâle, avec une cravate en soie, un peu patron, un peu sympa, quoi. Quand il est en face, d'autres patrons, quand il est dans des assemblées générales d'actionnaires et qu'il parle en millions d'euros. Arnaud Rousseau, c'est un homme très occupé parce que, outre le fait de diriger la FNSEA, on le retrouve administrateur ou dirigeant d'une grosse quinzaine d'entreprises, de holding et de ferme. Il est directeur de la multinationale Avril. Alors Avril, ça vous dit sûrement rien, mais les marques commerciales sûrement un peu plus. Hein. Avril, c'est Isiocat, c'est Le Sueur, Martine Puget, etc. Il est administrateur de la holding du même nom, hein, c'est en gros un patron de l'huile. Hein. Il est directeur général de biogaz du Multienne, spécialisé dans la méthanisation, administrateur du CEPOL, le leader français de la transformation de graines en huile, et le président du conseil d'administration de Sophie Protéol, qui finance des crédits aux agriculteurs. La liste est longue, hein, il y a une quinzaine de boîtes, j'en ai cité 3 ou 4. Comme patron d'exploitation agricole, en fait, il possède pas moins de 700 hectares, donc il est quand même aussi, si on veut, agriculteur, mais c'est un peu particulier de posséder 700 hectares, principalement des céréales oléagineuses, on l'aura deviné. Il fait du colza et du tournesol pour faire de l'huile, mais il possède aussi un peu de blé, de la betterave, du maïs et de l'orge, que des grosses productions bien industrielles. Il est aussi maire, sans étiquette, ça veut dire de droite, de sa commune Trocy en Multien, qui est en Seine-et-Marne, et vice-président de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq. Alors, sur sa biographie officielle du groupe Avril, il est dit qu'Arnaud Rousseau a un parcours atypique. Alors, ça, c'est le genre de truc qu'on met assez souvent pour raconter tout et n'importe
peu
quoi.
Peu de gens sont actionnaires d'autant de boîtes et dans autant de conseils d'administration.
C'est très atypique, c'est très atypique. Moi-même, par exemple, je ne suis pas aussi atypique qu'Aurélien Rousseau. Pour un agriculteur, c'est assez atypique, beaucoup moins pour un dirigeant d'entreprise, en fait, puisqu'il est diplômé de l'European Business School de Paris et qu'il est passé un temps par le courtage de matières premières agricoles, c'est-à-dire le boursicotage sur des matières premières et leur mise en vente sur des marchés financiers. Ces contradictions se retrouvent dans ses prises de position. Il défend une agriculture productiviste française pour nourrir les Français, mais il consacre ses propres champs à une production majoritairement destinée vers l'export. Il soutient les agriculteurs qui se plaignent de l'augmentation des taxes sur le gasoil non routier, mais en fait il a entériné cette hausse l'année dernière, loin des négociations avec le gouvernement sur le projet de loi, des négociations avec le gouvernement sur le projet de loi de finances, donc à nouveau pas très très cohérent. Avec ses homologues grands céréaliers, il est l'un des principaux bénéficiaires de la PAC, hein, donc la politique agricole commune, quand les petits éleveurs, ceux-là même dont la colère déborde pas mal dans le sud-ouest actuellement, sont les plus lésés. Donc en fait, finalement, c'est un peu deux classes d'agriculteurs bien distinctes, aux intérêts antagonistes, et c'est pourquoi en fait, il ne peut pas vraiment répondre aux demandes des manifestants sur la hausse du GNR, hein, donc le gazole non routier, qu'il a validé, ni sur les marges des groupes agroalimentaires, hein, parce que c'est aussi une revendication qu'on entend dans les manifestations agricoles qui disent en gros, on se fait saigner par les géants de l'industrie agroalimentaire qui nous achètent pas assez cher nos productions pour ensuite les revendre dans les supermarchés. Vu que lui, il dirige un groupe agroalimentaire, il est quand même mal placé. Alors Arnaud Rousseau est quand même Il s'est trouvé un autre bouc émissaire qu'on entend beaucoup dans les manifestations. Bah, c'est tout de la faute de l'Europe et puis c'est tout de la faute des normes écologiques qui sont vraiment dégueulasses. Et c'est quand même assez intéressant parce que ça indique aussi les positionnements des agriculteurs qu'ils soutiennent, qui sont pas forcément... qui parfois se font baiser par leur propre position en fait. Donc, mais ça raconte un truc de leur positionnement politique quand même. C'est un truc qu'on peut retrouver parfois dans des choses assez conservatrices. Sur la mansuétude dont font preuve les journalistes et les politiques envers les agriculteurs et dont profitent peu d'autres pans de la population, il faut quand même préciser en fait, ça ne concerne pas tous les agriculteurs, hein, puisque la mobilisation actuelle, malgré des revendications multiples, elle est largement menée par les puissants syndicats agroalimentaires. Donc on a parlé de la coordination rurale, la FNSEA donc, aussi, et puis les jeunes agriculteurs qui ont en fait la branche jeune un peu de la FNSEA, qui ne remettent pas en cause le système économique en place et qui se classent à droite ou à l'extrême droite du champ politique. Et c'est aussi pour ça que les politiciens et les médias sont très favorables à ces personnes. Donc la grande catégorie d'agriculteurs, évidemment, elle est un petit peu écrasante pour tout un tas de personnes qu'on ne retrouverait pas dans ces syndicats, qu'on ne retrouverait pas sur ces positions politiques et qui ne seraient pas des grands exploitants. De nombreux paysans et paysannes ne bénéficient pas du tout de la même indulgence lorsqu'ils luttent contre l'agriculture intensive, l'artificialisation des sols, l'accaparement des ressources ou la répartition des terres. Hein, parce que des agriculteurs et agricultrices en colère, en fait, il y en avait un paquet, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, à Sivins, à Sainte-Soline ou sur la 69. Mais on préfère alors les qualifier de militants écolos, de zadistes, d'anticapitalistes, voire d'éco-terroristes. Hein. Pourtant, en fait, bah, leur métier demeure un peu le même. Et d'ailleurs, on a entendu Gérald Darmanin qui disait tout à l'heure, c'est pas la même chose parce qu'ils travaillent, les agriculteurs, contrairement...
Ce sont des patriotes, a-t-il dit, je crois.
Ouais, ce sont des patriotes.
En plus.
Travail, famille, patrie, on est bien, France travaille, on l'a, France... le reste va suivre. Donc, on parlait aussi dit non, il n'y a pas de deux poids deux mesures, parce que bon, n'importe quoi, il existe incontestablement un deux poids deux mesures politique entre les agriculteurs et les autres secteurs de la société, mais ce deux poids deux mesures, il existe aussi en fait au sein même du traitement qui est réservé au secteur agricole. Compliqué ce sujet, on vous en reparlera sans doute parce que c'est probablement pas fini.
Et puis ça pose toute la question de comment est-ce que les agriculteurs qui se font effectivement niquer quand leur voix elle est portée par les lobbies de l'agroalimentaire, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se protéger et toutes les interventions contre les normes écologiques qui, on le rappellera, protègent aussi la santé des agriculteurs et des agricultrices qui ne sont pas d'accord avec la parole qui est quasiment la seule relayée de la FNSEA.
Absolument, donc on espère que évidemment tous ces gens vont laisser tomber la FNSEA et la coordination rurale et prendre des positions plus sympathiques qu'on pourra éminemment soutenir. Voilà, c'était pour le mouvement des agriculteurs agricultrices, mais c'est pas la seule chose qui se passe dans ce pays de merde. Je suis victime de la censure, je reviens.
L'invisible est disponible, libre et irréductible.
Canu Info.
L'invisible est disponible, libre et irréductible.
Attendu féministe.
Les hommes fiers et féministes solidaires et en colère.
Canu Info du vendredi.
Alors, bon, on vous a parlé un petit peu des mobilisations des agriculteurs qui ont évidemment donné lieu à l'expression de tout un tas de réacs de tous bords, qu'ils soient journalistes, membres du gouvernement ou bien d'autres partis politiques. Mais en fait, en réalité, la dimension réactionnaire de ce pays, elle est quand même un petit peu partout. Et on le voit notamment à travers une communication qui est assez forte. Et Johan Chapoutot, qui est historien, a proposé une forme d'analyse de la communication du gouvernement en montrant bien à quel point elle pue. Et du coup, je l'ai un peu reprise, un peu détournée. C'est dans l'IB, il y a des choses qui sont adaptées, etc. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. On a notamment entendu pas mal d'expressions récemment dans la bouche de ministres qui étaient réarmés. On a parlé de réarmement démographique. On a parlé de régénération. On a eu Gabriel Attal qui a dit qu'il fallait que la France reste la France. Derrière les mots du gouvernement actuel, il y a Elias, hélas, il y a peut-être Elias, mais il y a surtout hélas une logique qui est assez dégueulasse, puisqu'on exalte la communauté nationale pour mener une politique de classe hostile à probablement 90% de la population. Et en fait, cette espèce de nouveau langage, nouveau monde situé quelque part entre Thatcher et donc désormais des espèces de résurgence de natalisme des années 1920, voire de... Pétain. On a un rapport un peu bizarre au langage dans ce gouvernement actuel. On a depuis longtemps, nous de notre côté, cessé de l'écouter en se disant que ces gens racontent strictement n'importe quoi et qu'on n'allait pas forcément en tenir compte. Mais bon, voilà, c'est quand même un peu compliqué. Donc en 2017, hein, on se rappelle que Macron parlait de révolution, c'était même le titre de son livre, hein, quand il s'apprêtait à mener une politique conservatrice, voire ouvertement réactionnaire, quand il allait abolir l'ISF tout en baissant les APL. Aujourd'hui, on récidive quand ça soutient Gérald Depardieu contre ses victimes. Ça prétend être le camp de la raison quand ça utilise le gaz lacrymogène contre à peu près tout le monde, sauf les syndicats agricoles d'extrême droite. Ça parle de valeur travail, d'effort, de mérite, alors qu'on parle quand même d'un gouvernement largement composé de millionnaires de naissance, comme un certain nombre de ministres, dont par exemple Amélie Oudéa-Castéra, dont on va reparler, et qui n'ont jamais sérieusement travaillé. C'est effectivement un peu n'importe quoi ce que ces gens racontent. Mais ces gens ne peuvent pas dire honnêtement ce qu'ils sont et ce qu'ils font, car ils mènent en fait une politique de classe, hein, qui est hostile à une grande partie de la population. Et la nouvelle ministre de l'Éducation nationale est un cas assez intéressant. Alors vous avez vu, elle se prend des gamelles les unes après les autres, elle a l'air de traîner un nid de casserole. Chaque jour, il y a un ou deux articles qui expliquent à quel point elle a été à la limite de la légalité ou juste à côté. Mais bon, c'est un choix intéressant. Elle a fait le choix de classe pour ses enfants, les scolarisant dans un ghetto caricatural de la sécession des riches, par ailleurs ouvertement d'extrême droite, hein, vous avez peut-être vu passer ce qui se passe dans cette école Stanislas. Donc ces gens... et puis, comme elle n'assume pas, hein, alors ça c'était précédemment, on avait des ministres qui disaient j'assume à peu près tout. Et bah du coup, elle n'assume pas, elle ment. Alors avec une lâcheté exemplaire, elle diffame une enseignante de son école, elle crache sur tous les professeurs du pays avant de couvrir un établissement en infraction caractérisée avec la loi et en rupture avec le contrat de l'État. Hein, donc on rappelle quand même que à Stanislas là, ils ont permis de recruter des élèves en court-circuitant Parcoursup. Et puis par ailleurs, c'est une école qui applique des principes de non-mixité, ce genre de choses, etc. On imagine qu'un établissement musulman à qui on reprocherait les délits actuellement en cours pour Saint-Stanislas serait fermé sans délai pour communautarisme, sécessionnisme, fanatisme religieux et j'en passe. Mais quand il s'agit d'institutions catholiques réactionnaires, il se passe rien. Madame Oudéa-Castéra n'est en fait que le symptôme, hein, d'une pathologie plus inquiétante. Ces gens ne sont pas que mentir, c'est pas juste de la com. Ils manient des signifiants vides. L'école a des problèmes, ben on va être pas grave, on va rétablir l'autorité, on va mettre des uniformes, des redoublements, du brevet, des couperets, etc. En fait, tout ce dont la littérature scientifique a montré que c'est inefficace, on va taper, ça va filer droit, comme jadis, hein, ça manipule des espèces de fantasmes à l'ancienne, comme la fameuse école de Jules Ferry, totalement mythifiée, avec une promesse d'émancipation sociale qui n'existe plus, parce qu'à la limite, sur l'école Jules Ferry, ça existait, c'est-à-dire on va faire un truc dur, mais en face, vous aurez l'État-providence des services publics, de la justice fiscale menée par l'État, mais tout ça a été totalement balayé, donc ça n'a plus aucun sens. Et ce ne sont pas des coups de menton pathétiques ou un service national universel en seconde, hein, puisque c'est ce qui va se passer, un drapeau uniforme marseillaise, tout ça, qui vont réarmer un signifiant ainsi totalement évidé. Pareil pour le fameux réarmement démographique, hein, cette expression qui fait quand même un peu flipper. Donc Macron, qui est quand même un peu un féru du décorum de la France du général de Gaulle, je ne sais pas si vous avez vu sa dernière intervention télévisuelle, ils lui ont remis le décor exactement comme de Gaulle à l'époque. Mais bon, il y a un peu les accents séniles de Pétain quand même dans ses discours. Eh bien, il ignore que l'on fait des enfants, ben, en fait, quand on a confiance dans l'avenir. Et que bon, les politiques en cours, elles ne sont pas forcément de nature à y amener. Et puis derrière la com et le fait qu'on peut un peu rigoler, il y a hélas une logique, et c'est en fait une caractéristique assez forte du fasciste, ce sont les signifiants vides. On exalte la communauté nationale, la patrie, les forces vives, et les Allemands, Italiens, Français moyens, qui sont évoqués sans qu'on sache très bien qui c'est le Français moyen, pour masquer une politique de classe grossière qui conforte les élites et les intérêts industriels. Au-delà du n'importe quoi, mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas, rappelons-nous, nos vies valent mieux que leurs profits. Ouais, il a dit ça, il a repris des slogans de ce genre. Il y a en effet une petite musique inquiétante, réarmer, régénérer, combattre le grand effacement, a dit Gabriel Attal, un clin d'œil assez évident au grand remplacement, suivi de ce slogan « Pour que la France reste la France ». Ça devient assez criant, cette pente de l'extrême droite, avec bonus, un autre signifiant vide, « La France, c'est la liberté de manifester sans être mutilé, peut-être, de combattre la corruption, peut-être, que le gouvernement entrave notamment une association comme Anticorps n'est pas anodin. La France, ce serait aussi l'égalité, hein, ceux qui ne sont rien s'en rappellent aussi, la fraternité qui commencerait par la mixité scolaire des enfants d'Oudéa-Castéra. Bref, les appels du pied à l'extrême droite sont désormais en fait avec des bottes de 7 lieues et le bruit des bottes n'est décidément pas très agréable. Et puis à propos de ce réarmement démographique, on a quand même aussi vu surgir ce projet qui est annoncé de proposer des tests de fertilité aux jeunes hommes et aux jeunes femmes pour leurs 25 ans en France. Alors dans un premier temps, très probablement, ce serait juste des tests qui seraient remboursés à titre gracieux et qui ne seraient pas obligatoires, mais c'est quand même très inquiétant ce genre de dérive nataliste et le fait qu'un gouvernement un peu aux abois aujourd'hui n'imagine le corps des personnes de 25 ans et surtout des femmes de 25 ans que comme un lieu de procréation. Et puis tout ça arrive à un moment où il y a la discussion au Sénat sur la constitutionnalisation de l'avortement. Et on se rappelle quand même qu'on a notamment Gérard Larcher qui s'est positionné en disant qu'il était évidemment pour l'avortement, ce dont personne n'a de preuve, mais qu'il était contre sa constitutionnalisation parce qu'il ne serait pas en danger. Alors quand on voit à quelle vitesse on est en train de s'enfoncer dans des trucs fascisants, c'est quand même relativement inquiétant et on regrette que la mère de Gérard Larcher n'ait pas eu légalement accès à l'avortement.
Et d'autant plus en danger que le Sénat s'est déjà positionné pour que ce ne soit pas un droit à l'avortement, mais une liberté, ce qui limite de fait déjà la portée du texte qui passera ou ne passera pas.
C'est ça, le texte a été adopté, mais en écrasant totalement la demande de droit. Voilà, quelle bonne nouvelle. On passe tout de suite à la rubrique santé pour encore des bonnes nouvelles.
Canu Info du vendredi. Rubrique santé, handicap.
Les patients, ils manquent de plein de choses, ils manquent de soins, ils ne peuvent pas leur offrir le temps nécessaire à leur bien-être.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris pour demander une vraie individualisation de l'allocation adulte handicapé.
C'est vrai que le gouvernement n'a pas soutenu cette mesure.
Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact, proche de personnes malades.
It's basic truth of the human condition. Everybody lies.
Hello. I'm the doctor. Basically, run.
Et oui, basically run, et surtout si vous vous trouvez dans les rues le 25 janvier et que vous voyez des gens avec des drapeaux de Force Ouvrière. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Force Ouvrière a lancé un appel pour une manif de la fédération de leur fédération enseignante le jeudi 25 janvier et fort heureusement, elle n'a pas été suivie par les autres syndicats. Mais alors pourquoi ? Eh bien, cette journée vise à faire entendre leur critique de l'acte 2 de l'école inclusive lancée à l'occasion de la conférence nationale du handicap en 2023. Donc l'idée, c'est de développer 100 projets pilotes d'intégration physique d'IME, alors IME, le sigle, c'est Institut Médico-Éducatif, au sein des écoles ordinaires. On peut quand même refaire un petit passage en France depuis l'après-guerre à peu près, et de toute façon les politiques ségrégatives sont en fonctionnement depuis toujours. L'idée, c'est de dire les élèves dits ordinaires, ils vont à l'école dits ordinaires, bon, bah, sauf quand ils vont à Stanislas, là c'est un autre problème, mais en tout cas quand t'es handicapé, tu vas pas à l'école, tu vas en, alors IMP, IM Pro, IME, etc., peu importe, tu vas en institution spécialisée où tu es censé recevoir aussi l'éducation et l'instruction, mais où dans les fêtes, généralement, on va se retrouver avec des structures où il y a peut-être une cinquantaine de personnes, cinquantaine d'élèves ou de résidents, peu importe, et peut-être un prof, une prof, du coup, le nombre d'heures n'existe pas, c'est vraiment souvent des aménagements qui sont faits uniquement pour checker le truc, il y a un prof de l'éducation nationale qui est venu, donc l'accès à l'instruction, c'est réglé. Voilà. Du coup, bon, on discutera un peu après de ce que le gouvernement peut penser de tout ça, mais du coup le principe à peu près de l'inclusion, c'est dire, mais en fait peut-être si on donne une instruction aux gens, après ils sont instruits et finalement quand on est handicapé, on a autant le droit d'être instruit que quand on ne l'est pas. C'est un peu le principe de l'inclusion et que les élèves du coup handicapés puissent aller à l'école, ce qui semble à peu près basique. Seulement pour FO, ça c'est quand même vraiment très très grave parce que je vais vous citer cette petite phrase qui nous dit: certains enfants en situation de handicap ne pourront jamais à l'école, on est à des années-lumière de ça. Alors ça, c'est un peu vrai, il y a tellement peu de moyens qui sont faits, qui sont mis en place pour que ça arrive, c'est vraiment très délicat. Mais il n'y a pas deux enfants en situation de handicap qui se ressemblent, donc un principe pour tous, c'est faire n'importe quoi. Alors, bon, il n'y a pas deux enfants handicapés qui se ressemblent, comme il n'y a globalement pas beaucoup deux enfants qui se ressemblent, il y a des différences de classe, ça ne leur aura pas échappé qu'ils ont quand même un poids plus que considérable sur l'école, et je ne vois pas, il faut venir se jeter tous les quatre matins pour lutter contre la ségrégation résidentielle et le contournement de la carte scolaire. Merci. Voilà, par ailleurs, leur idée, en gros, c'est que la pédagogie ne peut pas se substituer aux soins et du coup, on doit soigner les gens quand ils sont handicapés et instruire les autres. Donc, c'est un problème. Voilà, face à tout ça, on va quand même rappeler que l'ONU, qui n'est pas réputée pour être un repère de dangereux révolutionnaires gauchistes, sanctionne la France et rappelle la France à l'ordre très régulièrement sur la ségrégation qui est faite. Les autres syndicats diront tranquillement qu'il faut travailler à la mise à l'écart des enfants en raison la mise à l'écart d'enfants en raison de leur écart à la norme valide. Voilà. Alors on peut quand même dire deux trois trucs sur tout ça, parce que malgré tout il y a une réalité aujourd'hui, c'est que l'accueil des élèves handicapés en France est catastrophique. Ce qui est mis en place, c'est absolument de la merde, et surtout les moyens qui sont mobilisés sont complètement ridicules. Les grosses difficultés quand on lutte pour l'inclusion, et c'est ce qu'on devrait toutes et tous faire, c'est de réussir à défendre le fait qu'il faut des moyens et que ça se fera pas de façon à faire du petit vernis en disant bah tiens, on va envoyer des enfants à l'école avec finalement du personnel ou pas, on s'en fout, des AESH ou pas, on s'en fout, la formation des enseignants, on sait que c'est une espèce de mythe qui n'existe plus depuis fort longtemps malheureusement, et du coup de pas se laisser avoir aussi par toutes ces mesures du gouvernement qui en fait n'ont qu'une seule vocation, c'est de limiter le coût, parce que les institutions spécialisées coûtent extrêmement cher, le coût des institutions spécialisées en transférant pour que ça coûte un peu moins cher à l'école. Du coup, quand des gens un peu cons comme AFO viennent se positionner contre l'inclusion et tiennent finalement le discours de dire il faut garder ce truc-là, c'est se faire complètement avoir. On a le droit de dire que l'inclusion en France à l'école, c'est de la merde, parce que c'est le cas. En revanche, ce qu'on doit défendre, c'est une inclusion qui soit mieux faite, mieux pensée, et évidemment, c'est un peu quand même toujours le problème, avec des moyens. Du coup, on est un peu triste de voir ce genre de... Enfin, triste... C'est affligeant en fait de voir des syndicats se positionner comme ça et qui vont pouvoir assumer tranquillement que finalement, parce que si c'est à l'école, pourquoi ce serait pas dans la vie, la ségrégation des personnes handicapées, c'est vraiment chouette. Du coup, autant commencer dans l'enfance, on les met en institution, comme ça ils apprennent à grandir en institution, ils apprennent à vivre en institution et ils pourront finir leur vie tranquillement en institution. Et ben en fait ça, c'est juste non.
Voilà, et puis quand même on passe un petit big up à des camarades qui se sont pointés à la manif parisienne pour aller dire deux trois mots à Force Ouvrière.
Ouvrière, force réactionnaire, force ouvrière, force réactionnaire, force ouvrière, force réactionnaire.
Comme vache qui pisse, j'ai bu ma soupe, mangé mon pain noir et ma vache qui rit. Je dois faire un classique, une femme et un enfant. Je prie pour que papy ne parle pas si vite. Le château de nos pères, c'est les F2, c'est pas Marcel Pagnol. Il parle moins bien à sa meuf qu'à sa nouvelle bagnole. La misère c'était pas si horrible, mais la victoire sera belle comme la prof d'espagnol.
J'ai grandi loin de la beach et des palmiers. C'était par choix mais c'était pas le mien. À 22 je suis à la niche au panier. Je ressors si j'ai ni shit ni champagne. Je suis en pleine créa, le projet prêt à liker. Rap réalité comme Ben et Infamous Mob. Ils font les connaisseurs en fait ils nous snob.
Trop de regrets comme la plupart de mes srables. Le destin me regarde faire des dingueries sans broncher. Comme les mecs au fond dans la crâne de l'Esram hein. Je pense à mon frère à l'ESA. Pourra jamais faire de gosse, aller voter ou avoir de bécane. Donc je dois tout niquer pour deux. Je suis né hors jeu, mentalité full feu. Mentalité je suis sur le terrain et je me mets où je veux hein, hein.
Gros pète au bec vend les allocations.
Il me faut une sasème de morceaux en rotation.
La valeur d'un crédit à la consommation.
Poupée de Laurent Bounot, je fais des invocations.
20 sec rosé, je fais une insolation.
25 degrés, je fais une coloration.
Rome à 50 degrés pour ton information.
On est venu tout baiser dans les prolongations.
Ah merde.
Le temps c'est de l'argent, y'a plus de temps à perdre. C'est des objectifs, c'est plus que des rêves.
C'est plus que des rêves.
Mes frères, je vous aime, j'aurais rien pu faire seul. Ah
merde.
Oh merde.
Oh merde.
Le temps c'est de l'argent, y'a plus de temps à perdre.
Y'a plus de temps à perdre.
C'est des objectifs, c'est plus que des rêves.
C'est plus que des rêves.
Mes frères, je vous aime, j'aurais rien pu faire seul.
J'aurais rien pu faire seul.
Oh merde.
Qui a du feu, faut que j'en fasse un, comme on fasse un. Vaut mieux être seul au sommet qu'être accompagné de fantassins. Qui a des feuilles, car il m'en faut. Pour oublier mon frère Afren et tous ces trucs sentimentaux.
Qui a encore un peu d'espoir, je préfère être mal accompagné plutôt que seul au sommet dans le brouillard. J'avais la notice, j'ai pas lu. Je devais t'oublier, j'ai pas pu du tout. Y'a tous ces trucs sentimentaux.
De l'autre côté du globe, j'entends encore le maître. On a joué hier. Ça sent encore le bédo. Mes survêtes du lycée sentent encore le mégot.
Yeah.
Je suis avec Salim, Dolné, sous. Mélange l'absolute, la Red Bull. J'espère avoir un gamin un de ces jours.
Bon, ils sont comme un métalleux. Quoi qu'il se passe, gros, rends-moi métalleux. Je te rends les tiens dès que j'étais sous. Si j'ai oublié, c'est que j'étais sous. Gros collège, j'étais saut. J'étais bon, j'ai fait le con, j'étais saut. Chaque bavure, j'accusais les autres. Au calcul sur mes défauts.
Oh merde.
Oh merde.
Le temps c'est de l'argent, y'a plus de temps à perdre. C'est des objectifs, c'est plus que des rêves.
C'est plus que des rêves.
Mes frères, je vous aime, j'aurais rien pu faire seul. Oh merde. Oh merde.
Ah merde, effectivement, ah merde. Le gouvernement annonce pour fin mars, donc dans deux mois, le doublement des franchises médicales. Les franchises médicales, c'est ce que vous payez à chaque fois que vous allez à la pharmacie ou à chaque fois que vous avez un acte paramédical. C'est un peu votre reste à charge. Donc concrètement, ça signifie que ce doublement par deux, ça va être quand vous payez une boîte de médoc aujourd'hui sur prescription, vous avez 50 centimes qui vous restent à charge. Là, ça va passer à 1 euro. Et pareil pour les actes médicaux, ça passe de 50 centimes à 1 euro. Les actes paramédicaux, c'est par exemple quand vous avez rendez-vous chez un kinésithérapeute, ce genre de choses. La franchise, elle est aussi doublée sur les transports sanitaires, hein, donc les fameux taxis ou ambulances qui vous amènent par exemple à l'hôpital quand vous en avez besoin. Et là, ça passe à 4 euros de franchise. Donc pour un certain nombre de personnes qui ont des besoins récurrents de se rendre à l'hôpital, ça fait beaucoup. On peut penser par exemple aux personnes qui se dialysent et qui vont 3 fois par semaine à l'hôpital. Ça fait un doublement qui fait passer tout ça de 6 à 12 euros par semaine. Alors c'est majoré. Ça s'est majoré, c'est plafonné pour les personnes qui ont beaucoup beaucoup de dépassements, jusqu'à 200 euros par an actuellement, mais vont-ils multiplier par deux la limite? On verra bien. Alors pourtant, on sait en plus d'expérience et notamment par des études scientifiques que toute augmentation du reste à charge, et en fait, elle entraîne des renoncements aux soins et un accroissement des inégalités de santé. Hein. Face aux conséquences sanitaires prévisibles de cette mesure, le gouvernement s'en fout. En fait, il infantilise totalement les malades. Le gouvernement estime en effet que seule une hausse des dépenses individuelles de santé pourrait les responsabiliser. C'est toujours ce discours un peu débile qui vient, avec cette idée aussi derrière qu'il y aurait une gratuité des soins, ce qui n'a aucun sens. Nous payons les soins, point barre. Ça s'appelle juste des cotisations qui permettent de financer ça. Il n'y a aucune gratuité des soins, c'est juste qu'on essaie de faire répartir l'effort sur toute la population. Dans les faits, donc cette mesure, elle participe à un transfert des dépenses de santé de l'assurance maladie, donc du collectif, vers les individus. Elle s'inscrit en fait dans une stratégie de privatisation accrue de la sécurité sociale et du système de santé. Le gouvernement piétine finalement, dans la foulée de ses prédécesseurs, les fondements de la solidarité selon lesquels chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas exactement la gratuité, mais c'est surtout pas ce que le gouvernement a envie de faire. La responsabilité en la matière ne devrait pas consister à opposer la prise en charge d'un problème de santé et le budget, hein, ce qui est ce que vont être contraints de faire un certain nombre de personnes, mais bien en fait à guider les dépenses publiques de façon rationnelle pour garantir le droit effectif de toutes et tous à la santé. On peut donner des exemples, hein, si on veut faire des choses rationnelles. On pourrait par exemple évaluer la pertinence des prix des médicaments de plus en plus exorbitants, alors même que les financements publics à la recherche et au développement aident souvent massivement des industriels qui sont dits privés, mais dont les recherches, enfin, tout ce qui est censé être l'investissement qui justifie le prix des médicaments, est en réalité payé déjà par le public. Le gouvernement agit en fait sans éléments rationnels pour guider les dépenses en médicaments et produits de santé. Il y a des aides publiques qui sont données, des investissements réels des entreprises dans la recherche et le développement, on ne sait jamais trop ce que c'est. Les coûts de production ne sont jamais vraiment évalués quand on fixe les prix au niveau de la Sécu. La marge des intermédiaires qui font notamment du transport, elle n'est pas évaluée non plus. Enfin, voilà, il y aurait pas mal de petits endroits où on pourrait aller chercher avant d'aller faire payer les personnes. Il faudrait aussi faire baisser le prix des traitements princeps. Le princeps, hein, c'est les traitements sous brevet, par des moyens légaux que le droit international et national autorise, comme la licence obligatoire, par exemple, qui permet de produire ou d'importer des génériques d'un médicament encore sous brevet. Par exemple, en France, il y a des endroits où les brevets n'ont pas la même durée, etc. Et par la mise en place d'une production au moins en partie publique de médicaments, et notamment de médicaments qu'on peut retrouver souvent en rupture hyper commun. La réduction des prix illégitimes des nouveaux médicaments permettrait de réorienter les dépenses de santé en fait, vers les besoins réels des personnes, et ça pourrait être un autre mode de fonctionnement. De même, hein, financer des actions de prévention et de santé publique permettrait d'améliorer le bien-être et la qualité de vie, de réduire le nombre de morts, tout en réduisant les dépenses pour la prise en charge de maladies évitables. Par exemple, la quasi-abandon de toute politique proactive pour prévenir le Covid-19, par exemple des purificateurs d'air, la promotion de masques FFP2, la vaccination, a des conséquences dramatiques sur la santé et des vies gâchées, mais a aussi un poids économique très fort à travers les hospitalisations, le remboursement des traitements, les fameux arrêts maladie dont on nous parle très souvent sans jamais questionner leur origine. De même, le refus gouvernemental de soutenir une action comme le Dry January, par exemple, ou l'abandon de campagne d'information sur l'alcool ou sur d'autres produits pour satisfaire, en tout cas sur l'alcool, le lobby viticole, sont en fait totalement irresponsables, tant sur le plan de la santé publique que sur celle des dépenses qui pourraient être évitées en réduisant par exemple les cancers liés à l'alcool. Il n'y a donc aucune raison d'opposer économie et santé comme le fait le gouvernement quand il s'en prend malade. Et face à cette irresponsabilité et ce dogmatisme en fait, hein, qui est toujours le fait de faire payer, il faut sortir des logiques de silo qui séparent économie, santé publique, prévention ou soins, et replacer les impératifs de santé au cœur des débats en s'appuyant notamment sur la société civile, usagers, patients, patientes, soignants, soignantes, les chercheurs, etc. Parce que notre santé, finalement, elle nous appartient. En attendant, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, je ne sais pas exactement comment on peut le contrer pratiquement, mais voilà, sachez que vous paierez 1 euro par boîte de médicaments fin mars. Et tout de suite, un jingle.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Ah bah alors.
Retour. Ça y est, on est de retour à la radio. Et bah oui, on vous l'avait promis, vous savez, la semaine dernière, il y a 15 jours, je ne sais plus, peu importe, c'est pas très grave. On vous avait parlé assez longuement de Javier Milei, donc le facho qui se définit lui comme anarcho-capitaliste et qui manifestement manque de culture politique. En tout cas, les capitalistes, ça ne fait aucun doute. Mais c'est surtout un gros faf qui a été élu en Argentine. Alors, il a promulgué, alors je ne vais pas vous faire tous les trucs, mais entre autres, depuis qu'il est là, la monnaie national a été dévalué de 50%. Il y a 5000 fonctionnaires qui ont perdu leur poste. Et surtout, lui, ce qu'il veut, c'est abattre complètement l'État, sauf pour les keufs. C'est ça, les fameux trucs régaliens dont on nous parle à tout bout de champ. Bah, lui, il le fait. Et surtout, en gros, il y a des dispositions législatives en Argentine qui permettent, en gros, qu'il puisse se passer du Parlement pendant 2 ans renouvelables, ce qui correspond à la durée de son mandat, bien ouège. Voilà. Donc seulement, en Argentine, en fait c'est quand même un bordel, c'est-à-dire que plus on est pauvre, quand on est retraité on doit flipper de ouf, et ça met toute la population dans une situation catastrophique. Et c'est quand même une bonne nouvelle de se dire que malgré la promesse de tirer sur les gens et l'interdiction de faire des manifestations dans la rue, mais vous aviez bien le droit de marcher sur les trottoirs et sur les places, il y a eu des centaines de milliers de personnes, peut-être même 1,5 million de personnes, on n'a pas réussi à compter nous d'ici depuis le Canu Info du vendredi, qui ont manifesté cette semaine contre l'extrême droite. Ce qui est hyper chouette, c'est que c'était vraiment une manifestation qui a touché tous les secteurs, pratiquement. Les aéroports sont complètement arrêtés. Ah bah oui, parce que du coup, la compagnie aérienne nationale doit être privatisée et vendue en petits morceaux, donc ça a motivé. Les syndicats, évidemment, enseignants, enfin bref, quasiment tout le monde s'est arrêté. Et si vous avez internet, on n'en doute pas, vous pourrez trouver de nombreuses images. Et c'est vraiment assez ouf de voir des flots humains comme ça qui se promènent en Argentine. On notera par ailleurs le petit truc bien joué des transports en commun qui ont fait grève à partir de 19h pour que les personnes puissent rejoindre tranquillement la manifestation. Alors ça c'est la plus grosse manif qu'il y a eu, et ce qui est aussi pas mal, c'est qu'on voit quand il y a autant de monde comme ça, malgré donc des prises de parole du gouvernement qui a traité les manifestants de syndicalistes mafieux, de gérants de la pauvreté, de juges complices et de politiciens corrompus, on voit pas bien le rapport, et évidemment qui ont essayé de rabaisser au maximum les chiffres officiels du nombre de manifestants et de manifestantes, malgré tout il y avait quand même du monde. Et surtout s'il y a eu effectivement des saisies, évidemment des fouilles à l'entrée, et que l'État a quand même essayé d'empêcher les gens de venir manifester, il n'y a pas eu une répression aussi violente que ce qu'on aurait pu imaginer dans nos pires cauchemars. Et c'est qu'effectivement, quand il y a 1,5 million de personnes dans la rue, ça devient plus dur de taper dessus, surtout que c'était très concentré à Buenos Aires et dans tout un tas d'autres villes, mais il y avait quand même des cortèges qui étaient vraiment monstrueux. Voilà, on vous avait promis des nouvelles de l'Argentine. Ce que ça a produit, pardon, quand même, parce qu'ils ont gagné pas grand-chose, mais quand même un petit truc, c'est le report du vote de la loi qui donne tout pouvoir. Donc, c'est pas une victoire éclatante, mais c'est quand même aussi de montrer à Javier Milei qu'il y a quelque chose en face et qu'il pourra pas faire tout et n'importe quoi. Peut-être va-t-il hésiter pendant ces quelques jours.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et c'est l'agenda. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire cette semaine ? Finalement, il y aurait quelques jours de repos, mais ça commence malgré tout dès demain. Rassemblement pour Gaza, pour la Palestine, c'est à 15h jusqu'à 17h à Place Bellecour. Halte au cessez-le-feu, halte au génocide, paix et justice pour le peuple.
Ça doit être pour le cessez-le-feu, probablement.
J'ai dit quoi ?
Halte au cessez-le-feu.
Ah ouais, excusez-moi.
Bon, c'est qu'on peut l'arrêter, le cessez-le-feu, il n'existe pas, c'est pas grave.
Voilà. Donc voilà, paix et justice pour le peuple palestinien. On est quand même bien triste de devoir continuer de faire des manifs pour cette situation qui est de pire en pire en Palestine. On va vous parler, alors bon, on va pas toutes vous les lister parce que vous avez internet et vous êtes, en tout cas on l'espère, et vous êtes capable d'aller sur conférences au pluriel -gesticulé.net où vous aurez toutes les conférences gesticulées du 7e festival de conférences gesticulées, agitons nos idées, dans plein de MJC du 19 janvier au 10 février. Voilà. On vous parle d'une petite soirée qui aura lieu à l'Amicale du Futur, c'est à 18h, vous pourrez presque enchaîner avec la manif pour Gaza. Les chants d'un peuple, alors je ne vais pas me lancer à lire des langues que je ne parle pas, soirée de chants populaires kurdes, interprétée par le peuple lui-même à l'Amicale du Futur, ouverture des portes à 18h. Toujours à l'Amicale du Futur, mais cette fois c'est mercredi à 18h30. Il y a cantine plus présentation, discussion. La réveille de Souaïda 2023 à aujourd'hui. La révolution syrienne n'est pas terminée. Vendredi prochain, il y a autogestion, horizontalité, démocratie au travail. C'est quoi ? On en est aujourd'hui. Ça, c'est le collectif autogestion qui vient vous raconter des trucs. Alors, on n'a pas encore le lieu, mais c'est toute la journée. Hein. C'est de 9h à 16h et vous pourrez écouter les infos après, du coup. C'est vendredi 2 février. Et soit vous écoutez les infos, soit on vous pardonnera si vous êtes à la soirée de soutien au Jusqu'ici, qui se tiendra cette fois encore à l'Amicale du Futur. C'est à partir de 19h et jusqu'à minuit. Et c'est pour aider le Jusqu'ici à rester ici, et qui sert quand même de lieu d'organisation à de nombreuses personnes.
Voilà, c'était un bel agenda. Bon, apparemment, on a une rubrique traditionnelle qui arrive.
Radio Canu. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes.
Canu Info du vendredi.
Eh bien, Pierre, merci pour ton appel. Merci aussi aux nombreuses auditrices et auditeurs de Radio Canu qui nous ont, comme chaque fois, appelé au 04 78 39 18 15. J'arrive enfin à le prononcer en fin d'émission. Et on nous a proposé ce soir ACAB qui voudrait dire Action des camarades d'Argentine pour Boulet Milei.
Ça passe.
Ça passe. On a un tout petit peu d'avance, il est 19h52 et 47 secondes sur les ondes rebelles de Radio Canu. Arrive dans quelques minutes une traditionnelle émission.
Je crois que c'est un spécial Mylène Farmer ce soir qui vous attend.
C'est très probablement un spécial Mylène Farmer. En tout cas, si vous avez envie d'écouter Mylène Farmer, vous pouvez rester sur Radio Canu. On vous met un peu de 24-24, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber et on vous retrouve